Vous êtes de retour à l'émission Le 9. On reçoit en studio Bromor Raman. Comment ça va, Bromor?
Ça va, Alex?
Oui, ça va super bien. Merci. Aujourd'hui, ben, tu vas nous parler d'un... Ben, je veux dire, la nouvelle de l'heure sur le campus, là, même s'ils l'ont sorti en fin de semaine passée, c'est le... c'est d'avoir délégué un peu la gestion des résidences à une entreprise privée qui est le groupe Custo. Donc, tu viens nous présenter un peu là, ce qui est arrivé, nous présente un peu la situation.
Oui, donc bon matin, Alex. Je voulais parler des résidences privées, de la privatisation des résidences en fait sur campus parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites dans les nouvelles, mais il y a aussi beaucoup de choses qui n'ont pas été dites. Donc, je voulais un peu rebattre les cartes et remettre les pendules à l'heure, comme on dit. Donc, nouvelle qui a fait couler beaucoup d'encre à la fin de la semaine dernière, tu l'as mentionné, la privatisation de la gestion des résidences étudiantes à l'Université de Sherbrooke. Les lignes éditoriales sonnent l'alarme. Inquiétude, dérangement, dénonciation même. Les sceptiques de cette nouvelle direction, dont la FEUS et le REMDUS, craignent une hausse des prix si les résidences deviennent l'objet de spéculations immobilières et une perte d'accessibilité d'un service essentiel en résultant. C'est sans compter aussi une certaine récalcitrance contre toute implication du secteur privé en général, il faut le souligner quand même. Il faut dire que les tambours de condamnation sont sortis très rapidement à l'annonce de cette nouvelle, sans souligner le contexte, les raisons ou le bilan de cette initiative, notamment sur le campus santé. Et c'est ça dont je voulais parler, c'est le sujet de ma chronique. Donc je voudrais revenir, en bon juriste, au fait, si je puisse me le permettre. D'abord, ce nouveau contrat entre l'Université de Sherbrooke et le promoteur immobilier Groupe Custo s'inscrit dans le contexte d'une implication privée croissante dans les résidences étudiantes dans toute la province du Québec. L'Université Concordia utilise déjà des résidences privées comme Greenhans. L'UQTR et l'UQAR ont recours à des partenariats publics privés pour la gestion immobilière. U-Laval collabore avec l'OBNL Utile pour l'implantation de logements privés pour ses étudiants. Le cégep Champlain-Saint-Laurent offre des options de logement parfois en gestion privée. Le collège Champlain-Allensville offre des résidences gérées par des tiers. Et le collège Lionel-Groulx propose des résidences comme l'Escale et le foyer des appartements privés, pour en nommer que quelques exemples. Surprenamment, c'est l'UQAM qui a pionné la gestion immobilière privée des résidences étudiantes. En effet, depuis 1997, l'UQAM a été l'un des exemples les plus documentés de l'utilisation de partenariats publics-privés à succès pour le développement de ces infrastructures, incluant des résidences. Ces résidences universitaires, comme celles de Saint-Urbain et René Lévesque, sont intégrées au tissu urbain, mais gérées par le promoteur Sentinelle Gestion Immobilière. Les modèles variés de gestion privée des résidences sont clairement une pratique déjà bien implantée au Québec. Pour en revenir à Sherbrooke, l'université avait déjà expérimenté avec le privé à travers l'acquisition du complexe L'Estudiantine en décembre 2019 et le lancement du projet Le Montagnien sur le campus de la santé par ce même groupe Custo. Les condamnations de cette initiative auraient pu faire croire à des loyers exorbitants pour des logements insalubres, délabrés, des dégâts d'eau, pas de chauffage en hiver, des rats partout. Ça existe, on le sait. Mais il n'en est rien. Pour Le Montagnien, l'accessibilité est maximisée puisque située directement sur campus. Le service inclut chauffage, électricité, internet haute vitesse et tous les électroménagers, donc tous les besoins des étudiants pour une vie. Le taux d'occupation frôle toujours le 100% à chaque année et le loyer varie entre 450 et 1480 par mois au choix du type de logement, donc une chambre, une studio, une colocation, un appartement, etc. Et la vieille étudiantine a été modernisée avec une grande variété de logements allant de studio à des 5,5. Encore, les loyers varient entre 550 et 1000 plus par mois. Le prix d'un studio meublé dépassant de peu les 1000 $ à Sherbrooke en croissant à l'approche du centre-ville, ce n'est pas pire quand même. En général, la gestion du groupe Custo est pas mal finalement. Il est devenu un leader immobilier en Estrie, a démontré savoir gérer ses affaires de manière professionnelle et responsable. La qualité de l'infrastructure est excellente et adaptée à un public étudiant, le tout en demeurant une entreprise locale rentable depuis sa fondation en 1980. D'ailleurs, c'est un point que je n'ai pas vu soulever nulle part à l'ère quand on parle des entreprises locales, etc. Le groupe Custo est un promoteur immobilier fondé à Sherbrooke et opérant dans la région de l'Estrie. C'est une entreprise locale qui a tout intérêt au développement à long terme de la région. Ce n'est pas Goldman Sachs ou McKinsey qui débarque à Sherbrooke. Mmh. Donc, c'est pour toutes ces raisons que l'université a décidé de mener cette expérience à bout. Visiblement, la privatisation limitée des résidences étudiantes a été un succès jusqu'à maintenant. Évidemment, des inquiétudes demeurent néanmoins pour ce qui est de l'augmentation du prix du loyer, mais aussi contre-intuitif que cela puisse paraître, c'est un argument en faveur de la privatisation. Parce que lorsqu'il est question de prix du logement, il n'augmente pas purement parce que les méchants propriétaires veulent faire plus d'argent. C'est un peu manichéen comme argument. Si des logements deviennent hors de prix et donc inoccupées, c'est une perte sur le bilan financier du proprio. Ça pourrait surprendre certains, mais on peut perdre de l'argent en possédant un bâtiment. Parce que même sans locataire, les frais d'entretien demeurent et il faut encore payer les impôts dessus. Si un bâtiment n'est pas entretenu et devient vétuste, comme j'en ai parlé pendant ma dernière chronique, sa valeur s'écroule sur le marché, sans compter les amendes qui suivront. Donc pourquoi le prix du logement augmente ? Économie 101. Le prix du logement augmente organiquement à cause de la demande croissante, donc il faut soit que la demande baisse ou que l'offre augmente. Le fait de fixer le prix des loyers artificiellement et de maintenir la gestion universitaire dans un contexte de faible taux d'inoccupation historique n'est pas le fruit d'un raisonnement logique, mais plutôt de la pensée magique, parce qu'au final, l'objectif des résidences universitaires demeure de loger idéalement tous les étudiants qui en font la demande, et la simple désignation d'une ressource en tant que service essentiel ou de droit universel ne crée pas magiquement cette ressource davantage. Je pourrais déclarer un droit universel à la poutine, ça ne créera pas magiquement de la poutine. Donc on comprend de quoi je parle. Une fois qu'on comprend ça, il faut se poser la question clé. Quelle est la mission principale de l'université au final ? Est-ce que c'est de transmettre la connaissance ou de gérer des immeubles ? Alors que la communauté étudiante s'accroît, que la demande de logement augmente et que les besoins se complexifient, la construction, entretien et gestion de résidences étudiantes devient une distraction pour l'administration universitaire. À présent, le groupe Custo, spécialisé spécifiquement dans la gestion immobilière, sera responsable de la minutie de la gestion quotidienne, des frais d'entretien, de la modernisation de l'infrastructure et de construire des logements adaptés aux besoins constamment évolutifs des étudiants dans un temps raisonnable. Et Alex, c'est devenu un sport olympique de railler les proprios, et c'est sûr qu'il y en a qui ont des pratiques carrément abusives, je le sais par expérience. Mais j'ai cru important de souligner que les propriétaires et les promoteurs immobiliers font aussi partie de la solution aux problèmes structurels de la pénurie du logement. Dans ce contexte, je trouvais un peu contre-productif d'avoir une sorte de réflexe nauséeux à la seule mention du mot privatisation, sans faire une analyse approfondie du bilan, ou sans même mentionner le bilan lui-même. Pour être clair, je ne suis pas pour la privatisation à tout va, comme tu sais, je ne veux pas privatiser l'armée, la police ou les pompiers. Mais cette position au cas par cas est basée sur une analyse fondée, comme je l'ai fait ici, sur des données empiriques et non sur des dogmes idéologiques.
Ouais. Moi, la question que je me suis posée, puis tu sais, tu y as en partie répondu, puis c'était le raisonnement logique que j'avais derrière ça, c'était pourquoi est-ce que l'université a besoin donc de déléguer ça au privé? Puis la raison peut pas juste être, il y a beaucoup d'universités ou de cégeps qui le font. Bon, là, tu as parlé de, justement de la gestion de ces immeubles-là. Est-ce que c'est l'argument qui est donné par l'université pour avoir privatisé ça? Est-ce que c'est vraiment pour se délester de ces charges entrepreneuriales, en tout cas de gestion, ou est-ce que c'est il y a d'autres raisons?
C'est certainement une des raisons principales, parce que au fur et à mesure que la communauté étudiante s'accroît et que le nombre de demandes de logement augmente, et que les demandes pour ces logements-là, je veux dire les services qui ont besoin d'être rendus, c'est-à-dire des internet haute vitesse et au fur et à mesure qu'on a de plus en plus d'étudiants étrangers, par exemple, qui ont des besoins particuliers parce que ils sont pas implantés ici, donc par exemple en termes d'électroménager, etc., ils peuvent pas retourner à Montréal faire leur lessive ou quoi que ce soit. Dans ce cas-là, l'université va être surchargée en termes de quel genre de gestion, comment est-ce qu'ils vont gérer ces logements-là, ces demandes-là. Et c'est exactement là où le privé a un rôle important, parce que eux, le privé permet d'apporter, c'est une expertise aussi, une spécialisation pour la gestion de logements. Et c'est ce que le groupe Custo a démontré être capable de faire. Parce que si la privatisation avait eu lieu sur le campus santé et que ça avait été une catastrophe et que, comme je l'avais dit, il y avait des logements délabrés, des dégâts d'eau, il n'y avait pas de chauffage en hiver, puis que le groupe Custo se faisait ramasser parce que leur logement est en train de tomber en miettes et qu'il y avait des rats et des coquerelles dans le logement, cette chronique n'aurait pas eu lieu. Mais clairement, si la privatisation a fonctionné, c'est pour ça que je veux connaître les arguments des opposants, mais des arguments qui sont basés sur le bilan réel du groupe Custo et pas non, la privatisation c'est méchant. C'est juste ça que je voulais
insister. Est-ce qu'on sait si... Parce que comment ça se passe? Est-ce que c'est seulement la gestion qui a été déléguée, ou est-ce qu'on a vendu les résidences au groupe Custo et donc que là, maintenant, ces bâtiments sur le campus appartiennent à une firme privée?
Ah oui, justement, c'est ce que je voulais aussi insister là-dessus, que si c'était pas clair dans ma chronique, mais le Sherbrooke a quand même été plus loin que d'autres résidences où c'était des partenariats publics-privés. Ici, on parle vraiment de la gestion par le privé. L'Estudiantine a été acquis. L'Estudiantine, le bâtiment a été acheté par le groupe Custo, et le Montagnier est un projet entièrement développé par le groupe Custo. Et si le bilan de ce projet-là suggère quelque chose, ça a quand même bien fonctionné. Je crois que les résidents du campus santé pourront en témoigner.
Mais donc, c'est ça, les bâtiments ont vraiment été vendus. Puis là, quand on parle de toutes les résidences universitaires ou seulement? Parce que quand on parle du Montagnier, là, je pense que tu parles, je ne sais pas si tu parles du Montagnier ou du
Mais le Montagnier a plusieurs bâtiments.
Oui, c'est ça, il y a plusieurs bâtiments. Mais là, on parle vraiment là, au G3 ou G1 à quelque chose, puis le E2 à E5. Là. Donc,
mais maintenant, justement, on parle d'un bascule vers. Il y a eu une expérience avec la privatisation de l'étudiantine. Et le Montagnier, c'était comme un peu un projet pilote. Et maintenant, l'université a vu que, bon, 5-6 ans après, le bilan est positif. Donc, on va privatiser toutes les résidences. Maintenant, le groupe Custo va être responsable pour la gestion des résidences universitaires. Et on sait que Sherbrooke, quand même, accueille beaucoup d'étudiants étrangers, internationaux. Et de plus en plus, d'ailleurs, je le sais, je travaille avec certains dans ma faculté en droit. Et donc, la demande, certainement, pour moi, ce n'est pas vraiment surprenant que l'université bascule vers ce modèle-là.
Ce sera un dossier à suivre, assurément, à suivre dans le long terme également. Merci beaucoup, Bramard, d'être venu nous présenter cette nouvelle de la privatisation des résidences ici à l'université.
Merci, Alex.